Pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Trouver un premier emploi, conserver la profession que l'on exerçait avant, envisager une reconversion en passant par une formation, travailler dans une structure dédiée ou dans un milieu professionnel ordinaire. L'emploi des personnes en situation de handicap peut revêtir de multiples visages, mais lorsque l'on évoque cette question, il y a une seule et même image qui revient presque immédiatement. C'est la comparaison entre cette insertion et un parcours d'obstacles. Même si en France, le cadre légal existe, puisqu'une proportion de 6% de travailleurs handicapés est imposée aux entreprises d'au moins 20 salariés. Pourtant, y compris dans la fonction publique, ce quota est rarement atteint et de nombreuses entreprises préfèrent être financièrement pénalisées que de respecter cette règle. Accompagnement, aménagement, sensibilisation, reconversion, respect des capacités de chacune et de chacun, redonner confiance, ouvrir de nouveaux horizons pour rendre possible l'autonomie financière, l'interaction sociale, l'affirmation des compétences, des objectifs que personne n'oserait contester, que chacun encourage, mais qu'une réalité statistique écorne. Ce chiffre, c'est le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Il est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Alors comment favoriser l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap? Pour en parler avec nous, docteur Jean-François Avrang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, chef pédopsychiatre de l'API de Sèvres, Chaville et Ville-d'Avray, président de l'association d'entraide Vivre. Vous êtes également, docteur Avrang, président de la commission santé mentale du Conseil territorial des Hauts-de-Seine. Témoignage sur ce parcours avec vous, Yaya Mesba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes micro-entrepreneur, projectionniste, engagé dans une formation diplômante et membre de l'association d'entraide Vivre. Et puis, tout à l'heure, nous serons en ligne avec le Niger où nous retrouverons le docteur Rokaya Faye Labo, médecin du travail, médecin conseil à la Caisse nationale de la sécurité sociale à Niamey. Et en fin d'émission, nous retrouvons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Vos questions, vos témoignages, nous les attendons sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Jean-François Avrang, lorsque l'on aborde la question de l'emploi ou de l'intégration professionnelle d'une personne en situation de handicap, on ne parle pas d'un moment figé, mais on parle toujours d'un parcours. À quoi ressemble ce parcours, même si chaque parcours est singulier? Est-ce qu'il y a des traits communs?
Alors, un parcours semé d'obstacles, d'embûches, comme vous disiez tout à l'heure. Les parcours sont singuliers, il y a des points communs, c'est-à-dire qu'il y a une complexité administrative, il y a un cloisonnement entre tous ceux qui pourront apporter un accompagnement, et un accompagnement qui ne soit pas seulement une offre de service, mais où toute la dimension d'accueil de l'autre, à un moment donné, soit présente. Donc, j'ai envie de dire, peut-être cette dimension d'accueil, je la soulignerai comme point commun à tous les parcours les mieux réussis. L'accueil, c'est accueillir l'autre, c'est être capable, avec lui, de se rencontrer, d'entendre là où il en est, ce qu'il peut souhaiter faire, d'entendre ses potentialités, ses désirs, et en tout cas, s'il a du mal à les exprimer, lui donner l'occasion de retrouver cette énergie pour le faire.
Et on ressent bien la nécessité de bienveillance dans cet accompagnement. C'est une question qui est peut-être un petit peu abrupte, mais est-ce que cette bienveillance, toute cette patience, elle ne se heurte pas au contexte actuel quand on nous dit baisser les budgets, obligations financières? À côté de ça, on a des personnes qui ont des besoins tout à fait particuliers. Un accompagnement, on va dire, pas plus humain, mais simplement humain, et que tout ça, eh bien, ça s'oppose.
Tout à fait. D'une part, la complexité administrative. D'autre part, la diminution des budgets alloués. La multiplicité des aides, des allocations, rendre le parcours encore plus parcours de combattant. C'est beaucoup plus complexe, en quelque sorte, pour une personne qui a des besoins spécifiques, qui est en situation de précarité, à un moment donné de son parcours, de sa vie, de trouver la bonne aide, le bon recours, le bon guichet. C'est très très complexe. Mais ce qui me semble vraiment important, c'est de ne pas confondre en quelque sorte l'humanitaire et l'humanité. Avoir rencontré quelqu'un en situation de très grande difficulté, bien sûr, il faut être présent, il faut être là, il faut trouver une solution d'hébergement, parce que sans hébergement, ça marche pas. Si on n'a pas de quoi manger, ça marche pas. Il faut avoir de quoi prendre un transport, se déplacer, voilà. Ça doit être simplifié, c'est des belles occasions de rencontre. Mais ces questions de rencontre, de lien social, de renouer avec l'autre, c'est vraiment ce qui est majeur. Et c'est ce qui différencie, en quelque sorte, une action, j'ai envie de dire, humanitaire, d'une action qui s'inscrit dans la durée et dans une réciprocité où l'autre va nous apporter, va retrouver une identité humaine superbe.
Peut-être qu'il y a quelques années, on aura utilisé l'expression « on ne fait pas de la charité », tout simplement. Même si on a changé de cadre, on est moins passé dans le religieux, on est plus dans le laïque. Maintenant, on parle d'humanitaire. Parcours d'obstacles, même si en France, c'est plutôt une chance, il y a quand même un cadre légal et administratif, c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Plusieurs textes de loi encadrent l'emploi des travailleurs en situation de handicap, loi de 1987, loi handicap de février 2005, il y a les textes, et puis, docteur Avrang, il y a la réalité.
Tout à fait. Il y a les textes, il y a la réalité. Mais la réalité, ne jetons pas la pierre, par exemple, aux entreprises, aux partenaires des entreprises, du travail. C'est très souvent une méconnaissance, la peur de ne pas bien savoir accueillir une personne différente qui fait qu'ils ont une frilosité à accueillir des gens qui ont des besoins particuliers. D'où, dans le cadre de l'association d'entraide Vivre, l'idée de créer un club des partenaires, un club des entreprises, d'aller au-devant de ces entreprises pour leur demander mais qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos réticences, vos craintes à accueillir quelqu'un d'un petit peu différent, mais qui aura de belles compétences, qui va les développer parmi vous et peut-être apporter encore plus que vous n'imaginez.
Alors, on a dit tout à l'heure des parcours singuliers, grande diversité de situations possibles. Derrière le terme de handicap, il y a tous ces cheminements. Je me tourne vers vous, Yahya Mesba. Aujourd'hui, vous exercez une activité, celle de projectionniste, au sein d'un centre culturel. Cette activité, c'était votre métier avant un accident. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Bonjour à tous les auditrices et à tous les auditeurs. Moi, je m'appelle Yahya et je suis projectionniste cinéma de métier. J'ai eu un accident de travail en 2008 et à l'époque, c'était le 35 mm et les bobines. Donc, ça pesait quand même 30-40 kilos. Et suite à cet accident de travail, disons que j'ai dû attendre 4, 5, 6 ans pour que mon accident soit reconnu, parce que mon employeur l'avait contesté, et la sécurité sociale suivait l'employeur. Donc pendant 6 ans, ça a été un no man's land administratif. Il a fallu que, au bout d'un an de rééducation, que je rebondisse un petit peu professionnellement. Donc j'ai dû faire des métiers qui ne m'intéressaient pas, mais j'avais pas le choix de les faire. Et j'ai essayé avec Pôle emploi tout simplement de faire des formations parce que le métier de projectionniste cinéma est devenu numérique. Donc je me suis dit qu'avec mes problèmes de dos, c'était l'occasion de revenir à ce métier parce qu'il n'y avait plus de choses à porter. Donc j'ai pas eu les aides qu'il fallait pour me former avec Pôle emploi parce que la base horaire de formation coûtait trop cher. Après j'ai voulu être réparateur de vélo, même chose, ça n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, j'ai appris que mon accident de travail avait été reconnu, et là, par quelqu'un de Cap Emploi, des Hauts-de-Seine, j'ai pu comprendre que je pouvais monter un dossier de reconnaissance de travailleurs handicapés. Chose que j'ai faite.
Yahya Mesba, moi j'ai une question sur votre parcours. Quand on vous dit cette formation, elle est trop chère, c'est pas pour vous, ce métier, ce projet, vous ne pourrez pas le faire. Comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là? Est-ce que les personnes avec qui vous êtes en contact à ce moment-là, dans leur échange, les choses se passent bien ou c'est quelque chose qui va être plus difficile pour vous après quand vous allez rentrer chez vous à la maison?
Non, mais on m'a pas expliqué les raisons pour lesquelles la formation, on pouvait pas me la financer. Tout simplement, c'était pour des soucis financiers.
C'est tout.
Voilà, parce que mon handicap, il le connaissait pas encore. Mm-hmm. J'en parlais pas avec Pôle emploi.
Mais vous n'en parliez pas à ce moment-là.
Non, j'en parlais
c'était quelque
pas.
Chose qui était encore trop difficile à dire.
Pas encore, c'est que j'étais pas reconnu, mon accident de travail n'était pas reconnu.
Mais c'est-à-dire que tant que l'administration ne vous avait pas mis le ouais, tampon sur la feuille, pour vous, vous n'aviez pas intégré ce fait-là.
Aucun statut, j'avais pas de statut de travailleur handicapé. J'étais, oui, demandeur d'emploi, mais très très vite après, les choses se sont accélérées, parce que quand j'ai appris que je pouvais monter un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé, là, bon, la chance que j'ai eue, mais bon, après ça se passe pas pareil avec tout le monde, c'est que j'ai passé une batterie de tests, j'ai quand même expliqué ma motivation, et là, je suis rentré dans un parcours de pré-orientation. C'est-à-dire qu'il fallait que je cherche le métier qui pouvait me plaire et auquel je pouvais me former. Donc c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de l'association Entraide Vivre, avec laquelle je suis resté 2 mois et demi pour un peu éclaircir mes projets professionnels. Et au bout de 2 mois et demi, ben, j'ai intégré plus tard une école pour passer un bac artisanat et métier d'art avec option communication visuelle et plurimédia. Donc,
et c'est votre formation actuelle.
Voilà, c'est
vous êtes engagé là-dedans.
C'est la formation. Voilà, c'est un bac. J'ai déjà fait une première année. J'ai passé mon BEP. Et en même temps, réintégrer un petit peu une école de reconversion professionnelle, parce que moi aussi, je change de métier. Mais en même temps, j'ai créé mon entreprise. C'est-à-dire que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas attendu les choses. J'ai rebondi. Ça m'a un petit peu motivé. C'est-à-dire
vous êtes resté dans le professionnel.
Voilà. C'est-à-dire que à ce moment-là. Là, je me suis dit, bon, j'ai une formation, ça va me durer 2 ans. Je me suis dit que je vais pas attendre d'aller voir l'entreprise pour lui dire que je suis reconnu travailleur handicapé. Voilà, j'ai un bac, j'ai pris les devants.
Ce qu'on entend, on a réentendu ce terme de parcours, docteur Jean-François Avrang, c'est que même avant de trouver un emploi ou d'entrer en formation, obtenir ce statut de travailleur handicapé, ça peut être assez compliqué.
Tout à fait. Mais je veux, avant de vous répondre, je voulais rebondir sur ce que dit Monsieur Mesba. Effectivement, retrouver la capacité d'agir, décider de devenir auto-micro-entrepreneur, c'est magnifique. C'est effectivement ce qu'on peut souhaiter pour chacun. C'est-à-dire que vous redeveniez non seulement acteur, mais l'auteur de votre propre parcours. Et ça, c'est bien. La reconnaissance de travailleurs handicapés, ben moi, je peux vous en dire un mot à titre personnel, puisque j'ai une surdité qui est présente depuis que je suis petit, mais dont j'ai pris conscience que tardivement, à l'âge de 25-27 ans, à la fin de mes études de médecine, et je n'ai accepté finalement, je n'ai découvert la reconnaissance de travailleurs handicapés, qu'on appelle RQTH, à la MDPH, que de sigles.
La maison du handicap.
Voilà, la maison des personnes en situation de handicap, que bien tardivement, justement, quand j'ai commencé à travailler avec des jeunes qui se retrouvaient en situation de handicap, qui grandissaient, qui devenaient adolescents et qui s'ouvraient vers la vie adulte, vers le monde du travail, et demandaient des reconnaissances de travailleurs.
Justement, on peut dire oui. Qu'il y a une double complexité. C'est peut-être d'un côté l'accepter soi-même et ensuite s'affranchir de toutes ces étapes administratives.
Voilà, tout à fait. La première fois que j'ai eu à remplir un dossier de demande de reconnaissance de travailleur handicapé pour moi-même, j'étais vraiment dans le plus grand désarroi. Et c'est vrai qu'il y a un grand nombre de pages à remplir. Alors même si tous les paragraphes ne le sont pas, ça semble assez aisé lorsqu'on est accoutumé pour le faire, mais pour quelqu'un qui le fait pour lui-même, c'est difficile. Il y a des résistances intérieures certainement aussi.
Est-ce que vous diriez justement, vous êtes psychiatre, qu'il faut donner le temps à la maturation intérieure pour bien remplir les cases et pour arriver à dire handicap à la première personne?
Oui. Et le temps des uns n'est pas le temps des autres. C'est un temps de cheminement. C'est un temps qui implique des passerelles parfois, des ponts. Vous évoquiez 2 mois, Monsieur Besbin, d'accompagnement. Et puis ces 2 mois importants qui ont permis autre chose. Et donc créer des passerelles, des ponts entre les dispositifs d'accompagnement, ça permet d'avoir le temps qu'il faut pour comment dire revoir son identité. Je peux illustrer moi je souhaitais travailler dans les eaux et forêts quand j'étais petit parce que justement j'entendais pas bien mais je le savais pas et je me disais là au moins avec les arbres les plantes j'aurais pas à parler.
Vous voyez le paradoxe, vous avez choisi je suis devenu psychiatre, c'est le comble.
Et faire de la chirurgie quand j'étais médecin, pourquoi oui, c'était pas dans la rencontre, c'était quelque chose.
Alors voilà. Des associations comme la vôtre qui sont actives pour favoriser cette insertion, d'autres associations dans ce schéma justement d'insertion qui s'appuient aussi sur la formation, et tout de suite cette illustration.
Priorité santé sur RFI.
Illustration au travers de ce reportage d'Héloïse Bajoux, réalisé dans le cadre du centre de formation de rééducation professionnelle de l'association Valentin Ahuy, dédié à l'intégration des personnes malvoyantes. Alors, dans les locaux du 7e arrondissement, le centre de formation et de rééducation professionnelle accueille 170 personnes, des jeunes, des adultes. Ils viennent se former aux professions de kinésithérapeute, mécanicien cycle ou encore technicien informatique. Rencontre avec Cécile Fumeron, directrice de la formation en kinésithérapie, ainsi que Manuel et Alexandre, 2 étudiants en 3e année.
Donc notre formation en masso-kinésithérapie est exclusivement pour les personnes en situation de handicap visuel. Nous avons plusieurs formations au sein du centre de formation professionnelle. C'est une profession réglementée avec un diplôme d'État. Ça veut dire qu'ils sont les mêmes compétences que n'importe quel étudiant. C'est-à-dire qu'ils font un parcours scientifique. Et après, on leur demande d'être en capacité de parler de leur déficience visuelle, puisqu'ils vont être confrontés à des personnes en situation de handicap. Et donc, s'ils ont eux-mêmes des difficultés à parler de leur propre handicap, ça risque d'être difficile. Et puis, on prend en compte aussi leur parcours professionnel, puisque nous avons globalement un tiers de nos étudiants qui sont en situation de reconversion professionnelle.
Je m'appelle Manuel, j'ai 48 ans. J'ai quasiment perdu la vision de l'œil gauche. Il ne reste plus qu'un peu que l'œil droit pour lire.
Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette formation de kiné ?
Mon passé peut-être de secrétaire d'un club de sport, où j'avais des adhérents qui arrivaient avec des genoux, des hanches, des poignets, des dos un peu abîmés, voire même très abîmés. Donc je me suis dit, on va essayer. De mon ancien univers professionnel à la kiné, j'ai changé de galaxie, j'ai fait un voyage extraordinaire. Tout est accessible à partir du moment où il y a un peu de travail et de la volonté, de la motivation.
Quel impact ça a eu justement sur votre capacité à enregistrer, à mémoriser les enseignements à l'école ?
Ça demande 6 fois plus de travail qu'une personne lambda. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail et juste pour pouvoir retenir au moins le minimum, quoi.
Moi c'est Alexandre et j'ai 23 ans. C'est vrai que je me sers beaucoup de la théorie pour réussir dans la kiné, en négligeant presque l'aspect technique, avec vraiment le mouvement de son corps. L'idée que j'avais de la pratique, c'était vraiment centré que sur les mains et le bras, en négligeant le reste. Et donc j'apprends vraiment à utiliser tout mon corps autrement, et je trouve que c'est quand même intéressant de connaître son corps pour connaître celui du patient.
Et justement, comment est-ce que vous faites concrètement pour les exercices pratiques, pour arriver à vous servir de l'ensemble de votre corps?
Il faut que le professeur me le montre. L'essentiel, c'est quand même de l'avoir au moins touché une fois pour pouvoir se le représenter et puis essayer de le faire après, le lendemain ou 2 jours plus tard, avec des étudiants.
Nous avons la chance, en tant que kiné, d'être dans une formation où il n'y a absolument pas de chômage. Donc il y a une insertion, j'ai envie de dire 200%. Les kinés qui ne travaillent pas sont à mon avis plutôt de 2 types. Soit c'est un choix en termes plutôt de vie familiale, des congés paternité, des choses de ce genre, ou alors c'est effectivement pour des raisons de santé. avec éventuellement une aggravation de leur pathologie visuelle qui peut interdire des ports de charge, des choses comme ça. Mais sinon, l'insertion est globalement très satisfaisante. Ce qui peut éventuellement être un frein à l'insertion professionnelle en province, c'est éventuellement les déplacements sur les centres de rééducation ou les hôpitaux qui sont pas en centre-ville. Et c'est plus, je pense, plutôt l'autonomie de transport et de déplacement qui peut être un frein.
Reportage signé Loïse Bajou, un rencontre avec ses futurs kinés et des questions très concrètes qui se posent quand on travaille et que l'on est en situation de handicap. Docteur Jean-François Avrang, rejoindre son lieu de travail, hein, c'est bête mais c'est essentiel. Transport, toujours ce fameux thème central de l'accessibilité.
Tout à fait. Et cette question du transport est en soi même un temps d'accompagnement qui peut être important, un temps de rencontre. Nous avons eu, dans le cadre de du travail avec nos équipes et les personnes accompagnées, une dame comme ça qui refusait quasiment tout ce qu'on lui proposait. Et vous voyez, là, quand on est une société de service, ça marche pas forcément très bien. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait l'orienter vers le prendre soin d'elle-même. Donc, elle avait des soucis médicaux, mais c'était loin. Il fallait qu'elle se rende aux consultations. Donc, notre seule intervention, ça a été de l'accompagner sur le plan du transport à ses consultations médicales. Et cet accompagnement, ce petit temps, on pourrait dire interstitiel, ce temps de rencontre, a permis de nouer une vraie relation solide, qui a ouvert après sur une préorientation professionnelle, etc. Voilà.
Avec toutes les implications, évidemment, associées parfois à certaines séquelles, à certains handicaps, la fatigue, parfois des arrêts maladie qu'il faut reconduire, qu'il faut multiplier, l'aménagement du lieu de travail. Yaya Mesba, est-ce que dans votre cas, il a fallu procéder à des aménagements particuliers où finalement votre handicap ne se ressent pas tant que cela?
Moi, la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que j'ai pu très vite savoir ce que je voulais pas et surtout ce que je pouvais pas faire. Donc, dans ma situation, si vous voulez, premièrement, pour la formation dans laquelle je suis, j'avais demandé un fauteuil ergonomique pour pouvoir suivre mes cours tranquillement, parce que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Ensuite, quand j'ai créé ma micro-entreprise, parce que je travaille aussi dans un centre culturel où j'effectue des prestations techniques de projection, mais je fais aussi de l'agence, du moins de l'accueil. Donc j'accueille le public. J'ai aussi mon fauteuil. Donc je reste pas constamment debout et non plus assis trop, parce que les deux me font mal. Mais si vous voulez, dans ce centre culturel, comme c'était mon projet que je devais concrétiser très très vite, il a fallu que je passe par exemple un diplôme d'agent sécurité incendie, parce que je reçois du public, et très très souvent je suis tout seul dans le centre culturel. Donc j'ai quand même passé un diplôme d'agent sécurité incendie. Je pensais que je pouvais pas le passer pour des conditions physiques, mais finalement avec le médecin mon médecin personnel, ça a pu se passer. Après, je voulais surtout rebondir sur les opportunités que nous avons quand nous sommes en formation. On passe aussi des stages dans les entreprises. Et je tenais vraiment à remercier les entreprises qui prenaient la peine d'accueillir les gens en situation de handicap. Actuellement, je suis dans une imprimerie à Paris. J'ai pas de problème de transport pour y aller parce que je peux marcher et ça me pose pas trop de soucis. Mais je tenais vraiment à remercier ces entreprises qui prennent la peine de prendre des stagiaires en situation de handicap. Et moi, je suis dans une imprimerie à Gare du Nord. Je remercie Célia et Christian qui font un travail remarquable, parce que franchement, avant même de projeter comme ça des personnes en situation d'handicap dans les bras des entreprises, le faire par le biais de stages, je trouve qu'on devrait valoriser ces gens-là et leur donner beaucoup plus d'aide, parce qu'on sait qu'en retour, ça nous profitera. Donc la seule chose que je veux dire, en fin de compte, moi j'ai pas de problème pour me dépasser. Disons que je suis très content d'aller au travail, et quand j'ai été au travail, je suis très content de retourner à l'école. Voilà. Je jongle avec les deux.
On comprend bien justement l'importance de retisser ce lien social, la confiance, l'estime de soi. Je m'adresse au psychiatre, docteur Jean-François Avrang. Est-ce qu'on peut évaluer la portée thérapeutique de ce retour au travail ou de ce maintien dans l'emploi? Comment ça fait du bien à l'esprit et au corps?
Je crois que l'ensemble est vraiment lié. Si on parle à notre époque de nouveau beaucoup de santé mentale, au sens de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire le bien-être physique, psychique, les loisirs, l'habitat, une vie culturelle, un travail, une activité, des rencontres, le lien social, c'est l'ensemble qui constitue la santé mentale, c'est qu'on voit bien que c'est étroitement lié. Et alors, en écoutant Monsieur Mesma, je me disais que l'idée m'échappe là tout de suite.
Mais... Sur l'adaptation au travail, sur le corps qui n'empêche pas de faire certaines tâches, voire la formation au cours du retour au travail.
Oui, voilà. Je pensais à des petits-enfants et des adolescents avec lesquels j'ai travaillé qui avaient une surdité et une cécité associées et aux représentations que ces personnes avaient d'elles-mêmes de leur capacité. Voilà, ça me revient. Et parfois, une personne qui est en situation de handicap se dit « mais je ne peux pas faire ça, je ne vais pas pouvoir ».
Une forme d'autocensure.
Voilà, une autocensure et le fait de faire un stage, de découvrir et que d'autres acceptent, soient capables d'étonnement et de dire « venez, on va voir ensemble hein, ». Et on va... C'est génial, parce que ça ouvre de nouvelles possibilités et parfois ça ne fait que révéler un potentiel qui était bien présent.
Messieurs, nous allons tout de suite vous retrouver, mais tout de suite ce témoignage dans Priorité Santé. Et pour ce, on va partir pour le Bénin, pour Parakou, où nous sommes en ligne avec Salaou. Salaou, bonjour.
Bonjour, Madame Caroline.
Bonjour à vous. On est à votre écoute. On va tout de suite entendre votre témoignage. Allez-y.
Oui, mon handicap a commencé à l'âge de 6 ans. Parce que j'étais tombé malade, mes parents m'ont conduit dans une clinique. Donc, suite à une injection, j'ai eu des problèmes au niveau des deux pieds. Mm-hmm. Oui. Il y a eu des problèmes au niveau des deux pieds. Au fil du temps, la situation s'est aggravée. J'ai dû subir une opération. Et après l'opération, j'ai fait 4 mois à l'hôpital. Et durant les 4 mois, c'était la maman qui était restée. C'est la maman qui est restée à côté de moi. Après la phase de l'opération, a suivi la phase de la rééducation. Et après 8 mois, et c'était toujours la maman, qui était à côté de moi. Mm-hmm. Après ça, j'ai été inscrit à l'école. Mes études se sont bien passées. Aujourd'hui, j'ai fini. J'ai soutenu en 2016 en anglais. Et en 2017, j'ai commencé par enseigner dans un collège. Et le jour où je devais prendre service dans le collège, la veille, on m'avait appelé. Je n'étais pas à la maison. Le portable était à la maison. Donc, c'était la femme de mon grand frère qui avait décroché. Donc, le lendemain, je me suis rendu dans le collège. Le collège est situé à 60 km de Parakou. Ouais. Mm-hmm. Je me suis rendu dans le collège. Arrivé, je me suis rendu dans le bureau du censeur. Et le censeur, je me suis présenté au censeur. J'ai dit, monsieur le censeur, c'est moi, c'est là où tu fous. Vous m'avez appelé hier, donc je suis venu pour prendre service. C'est là le censeur. Il me disait, monsieur, c'est là où tu fous, vous m'avez déçu. Il ne savait pas que c'était vous, vous m'avez déçu. Vous avez vu mon appel, il fallait me rappeler pour me confirmer que vous serez là le lendemain. Moi, je n'ai pas fait ça, je me suis rendu là seulement. Mm. Et il me faisait comprendre qu'une autre personne a déjà pris ma place. Ouais. Mm-hmm. Donc on a échangé un peu avec les censeurs du collège. Donc j'ai pris le départ, il devait revenir à Parakou. C'est là, 10 minutes plus tard, les censeurs m'appellent. Je retourne, il me dit, bon, qui s'est concerté avec son adjoint. Donc ils ont décidé de me garder, de me retenir. Et c'est comme ça que j'ai commencé par travailler. Donc un jour en pleine discussion, le censeur me faisait comprendre que s'il m'a retenu, c'était à cause de mon handicap.
Salaou, j'ai une question à vous poser. Donc quand vous travaillez, vous êtes donc professeur d'anglais, on l'a bien compris, tout ce parcours qui a été assez long. Quand vous travaillez face à vos élèves, vous arrivez en classe avec vos béquilles, c'est comme ça?
Oui, je me déplace à l'aide des béquilles.
Et comment ils réagissent, les élèves, quand ils vous voient arriver maintenant, quand vous arrivez dans la classe? Ils vous disent quoi?
Cette année, j'ai eu un petit problème avec les élèves de 6e. Le premier jour, j'étais rentré dans la classe. Et ils se sont tous tués. Ils se disaient, ah, est-ce que lui peut faire le travail? Oui. Mm-hmm. Maintenant, avec les grands élèves, ceux de la première, je n'ai pas eu de problème. Ils ne m'ont jamais posé de questions concernant.
Ils vous ont pas posé de questions, mais vous, vous n'avez pas envie d'échanger, justement, dire est-ce que vous avez des questions à me poser, est-ce que vous êtes curieux, ou est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir après en vous disant est-ce que c'est pas trop difficile, monsieur, comment ça se passe?
Non, ils ne m'ont jamais posé cette question. Ils ne m'ont jamais posé cette question.
Et vous auriez envie d'en parler avec eux ou pas? Ou c'est un petit peu votre jardin secret?
Bon, je suis un peu gêné de parler de ça avec vous. Ouais.
Pourtant, vous avez de quoi être fier, hein, être prof d'anglais, avoir dépassé le handicap, avoir trouvé un poste. Il y a plutôt de quoi être fier, pas rester modeste, enfin, modeste comme il faut, humble, mais pas non plus se cacher, parce que vous avez eu un sacré parcours. Hein.
Oui.
Et qu'est-ce qu'en pense votre famille, justement, quand ils voient qu'avec les problèmes de santé que vous avez eu tout petit, vous avez réussi à faire votre place? Qu'est-ce qu'en pense votre famille?
Ma famille est très fière de moi aujourd'hui. J'ai une famille formidable qui a essayé de me soutenir, vous voyez.
Et vous avez le sentiment que c'est aussi grâce à leur soutien à eux que vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui?
Oui, surtout grâce à la maman et mes frères et sœurs, ce sont eux qui m'ont plus soutenu. Ouais.
Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup, hein, Salaou, pour ce témoignage qui montre qu'avec la volonté aussi, l'intelligence, hein, aussi de ce censeur qui vous a retenu une place dans son établissement, ben, vous avez réussi à avancer et à avoir ce beau métier d'enseignant. Vous souhaite une très très belle journée à Parakou au Bénin. Peut-être un commentaire, docteur Jean-François Avrang, après ce témoignage de Salaou qui vient de nous expliquer son histoire.
Oui, merci beaucoup, Salaou, de ce témoignage, de cette réussite, hein, pour vous, mais et cette modestie aussi, cette humilité. Hein, vous, voilà, c'est tout simple. Hein, vous vous présentez à vos élèves comme vous êtes. Hein, puis voilà, ça peut être une chance, hein, d'oser en parler un petit peu et de leur demander comment ils voient. Hein, de les mettre un petit peu au travail. Et il y a une dimension là qui a été soulignée, c'est la famille et l'accompagnement des familles, la reconnaissance aussi de ce qu'elles donnent. C'est quelque chose qui n'est pas toujours simple, mais qui compte beaucoup.
Parce que tout à l'heure, quand on parlait, docteur Jean-François Avrang, du parcours d'obstacle, le parcours d'obstacle, il peut être pour des personnes indépendantes, individuelles, mais l'entourage est là aussi pour soutenir. Et quand on est parent d'enfants handicapés, là, c'est autre chose. Ce parcours d'obstacle, qui peut même parfois se mêler à de la colère, il est vraiment intégré dans toute la sphère familiale.
Tout à fait. Et nos sociétés reconnaissent de plus en plus, et c'est bien, le rôle de ceux qu'on appelle les aidants familiaux, par exemple, ces familles, ces gens qui entourent la personne qui a besoin spécifique en situation de handicap, le petit enfant qui grandit un peu différemment et qui vont l'accompagner. C'est un don merveilleux, mais ça demande une véritable reconnaissance, qui n'est pas que financière, c'est le regard de la société sur cette aide. Et à notre époque, ça peut justifier aussi des formations, hein, un accompagnement, apprendre à mieux accompagner, c'est important. Voilà.
Vous restez avec nous, on va tout de suite repartir, cette fois pour le Niger.
Priorité santé sur RFI.
On retrouve en ligne le docteur Rokaya Faylabo. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin du travail, médecin conseil à la Caisse nationale de la sécurité sociale à Niamey. Est-ce qu'aujourd'hui, docteur Faylabo, il est fréquent de croiser des personnes en situation de handicap dans les entreprises au Niger?
Oui, nous rencontrons souvent des personnes avec un handicap surtout moteur en entreprise. Par ailleurs, nous avons également les malentendants et muets comme agents de surface, agents de maintenance dans nos hôpitaux nationaux. Également des non-voyants dans les centres de kinésithérapie, toujours dans nos hôpitaux nationaux.
En cas d'accident du travail, docteur Rokaya Faylabo, quels sont les dispositifs prévus pour les salariés? Il y a la convalescence, mais ensuite il y aura le retour à l'emploi éventuellement.
Oui, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, nous gérons la branche des accidents de travail et maladies professionnelles. Et dans ce cadre, il y a un décret 6510, qui règle toute la gestion du régime de réparation et de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles, et modifié également par un autre décret qui ramène les tableaux de maladies professionnelles de 21 à 40 tableaux. Alors, la Caisse nationale de sécurité sociale prend entièrement en charge les dommages corporels causés par les accidents de travail et maladies professionnelles dès le lendemain des faits. La victime peut bénéficier des frais médicaux, frais chirurgicaux, jusqu'à l'appareillage de la victime, Et entre autres, on gère également la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle que nous avons rencontrée.
Alors, plusieurs points donc qui sont pris en charge au niveau de l'État, mais est-ce qu'il y a des règles en termes d'emploi des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il existe, par exemple, comme on l'a évoqué tout à l'heure en France, des formes de quotas, docteur Labo?
Oui, nous avons des mesures législatives et réglementaires qui sont mises en place. Il y a le décret, le Code du travail a son décret d'application qui fixe un quota de 5% pour recrutement de 20 travailleurs et plus.
Et est-ce qu'il existe des associations justement qui travaillent? On a parlé de cette fonction de lien entre les personnes en situation de handicap et le milieu professionnel. Est-ce qu'il existe au Niger des associations qui s'engagent pour se mettre à la disposition justement des personnes qui en ont besoin?
Il y a des associations, plusieurs associations d'ailleurs et des organismes internationaux et nationaux qui se sont regroupés en fédération, la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Qui joue un rôle et va promouvoir le respect de la dignité intrinsèque de toute personne.
Docteur Rokaya Faye-Labo, je suis navrée, on est obligé d'écourter notre entretien parce que la ligne s'est détériorée au fur et à mesure de notre communication et à l'heure qu'il est, on comprend plus grand chose de ce que vous êtes en train de nous dire, on le regrette infiniment. En tout cas, on vous remercie beaucoup et je rappelle que vous êtes médecin du travail, médecin conseil à la Caisse nationale de sécurité sociale à Niamey au Niger.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Alors, on se retrouve justement pour la dernière partie de notre échange, toujours en votre compagnie. Yaya Mesba, vous entendez les témoignages du bout du monde hein, dans cette émission. On voit que chaque situation, on l'a compris, est particulière. Mais en tout cas, ce qu'on ressent, c'est que pour les personnes tout à l'heure, comme pour notre auditeur qui était au Bénin, quand on a remis le pied au travail ou quand on met le pied au travail, on voit cette fabrication de l'estime de soi, de la confiance. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous vous sentez mieux dans votre peau depuis que vous êtes engagé dans cette formation et depuis que vous avez créé votre micro-entreprise pour reprendre votre emploi d'avant l'accident?
Disons que j'y vois un peu plus clair. Donc j'avance avec un pas plus assuré. Après, moi, si vous voulez, je pense que le seul handicap que j'ai, c'est que j'ai quand même 54 ans.
Mais ça, c'est un handicap sur lequel on travaille peu. Hein. Plus les années avancent, moins ça va.
C'est vrai qu'il y a une période où, avant même que mes aventures me le fassent subir, je sais que passer un certain âge dans l'entreprise, retrouver un travail, ça peut être compliqué. Ça, je l'ai vécu et je peux très bien confirmer que ça peut devenir un handicap. Après, ça peut aussi devenir un atout d'avoir 54 ans. Et d'être en situation de handicap. Moi, si vous voulez, le bac, pour moi, c'est très symbolique parce que j'ai été en échec. Le jour du bac, j'y suis pas allé, il y a 30 ans, et je me suis laissé vivre, bon, voilà. Donc maintenant, c'est une petite revanche que je fais. Mon bac, je le veux, c'est vraiment une formation diplômante que je passe. Ensuite, je vous dis pas que je vais me retrouver infographiste ou responsable de communication, mais comme j'aime l'image et que cette formation me permet à peu près de savoir où je vais, et en même temps, dans ce centre culturel où je propose mes prestations comme micro-entrepreneur, ça me permet de mettre encore du moins de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire que je serais polyvalent un peu plus. Je pourrais faire d'autres choses. Donc, je pense que c'est aussi un choix personnel que je fais. Ça vient de moi. C'est moi qui prends les devants.
Et on sent bien votre détermination. Tout à l'heure, on a parlé de l'accompagnement par le biais des associations. Est-ce que vous avez eu besoin, au-delà de ce contact avec les associations, d'avoir un appui psychologique pour vous faire avancer? Parce qu'à certains moments, vous vous sentiez en situation de faiblesse psychologique après justement cet accident.
Disons que l'appui psychologique, j'aurais préféré l'avoir au moment où je faisais rien, au moment où je savais pas où j'allais, ce qui m'arrivait. Maintenant que je suis dans un parcours de formation, que j'ai créé ma micro-entreprise, ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai quand même, en tant que travailleur handicapé, j'ai quand même pu bénéficier d'une aide de la GFIP qui m'a octroyé 5 000 euros pour monter mon entreprise, m'acheter mon matériel. Donc, si vous voulez, financièrement, ces petites choses aident à vous motiver. Après, je veux surtout en revenir aux aidants familiaux qui le sont malgré eux, à qui on essaye de donner un statut.
C'était important dans votre cas? L'entourage?
Moi, j'ai... je l'ai pas vécu vraiment. Mm-hmm. Donc j'ai vraiment essayé les choses tout seul. Mais c'est vrai que bon, mon parcours de travailleur handicapé, moi je reconnais qu'avoir un handicap très très tôt, très très jeune dans l'enfance, ça peut aider à développer une certaine résilience. Mais moi, mon histoire, elle m'est arrivée dans les années 2008, j'avais 40 et quelques années. Tout s'est effondré à ce moment-là. Bon, après, je me suis retrouvé tout seul, mais je veux surtout revenir aux aidants familiaux et surtout aux accompagnants dans les entreprises. Il faudrait créer des postes dans les entreprises qui permettraient d'aider les gens en situation de handicap pour être intégrés dans l'entreprise. C'est un poste à créer, c'est peut-être un métier à développer.
Il en existe déjà, hein, dans certaines entreprises qui ont créé justement des postes directement destinés à cette fonction. Docteur Jean-François Avran, il y a les associatifs, on a parlé des difficultés, on a parlé des obstacles, mais si on regarde les chiffres, on voit malgré tout qu'il y a une amélioration. Hein. L'emploi des personnes en situation de handicap au niveau global, eh bien, il augmente. 3,64% en 2006, 5,61%. On est proche des 6% l'an passé au niveau national. Est-ce que vous sentez, vous, au-delà justement de ces chiffres, au niveau de l'humain, un mouvement de fond où on est toujours dans une situation où, il faut bien le dire, il y a encore de l'exclusion, il y a encore de la discrimination? Les deux?
Il y a de l'exclusion, bien entendu. Hein. Mais justement, il y a un mouvement de fond, je crois, qui se dit par l'école inclusive, la société inclusive, c'est-à-dire une société où chacun aurait sa place et pourrait apporter. Et je voudrais apporter un témoignage à propos de Yaya Mesbah, là, qui vient de nous parler de son parcours. Hein, parce que vous parlez des difficultés que vous avez rencontrées, que vous avez surmontées. Et puis, tout de même, c'est vous, il me semble, hein, Monsieur Mesbah, qui nous avait dit un jour à vivre, hein, qu'est-ce que nous, les personnes que vous dites en situation de handicap, qu'est-ce que nous, on peut faire pour les valides? C'est vrai que c'est une phrase que nous avons retenue, qui nous a marqués, parce que elle indique combien le regard est un petit peu condescendant, comme combien finalement on apporte quelque chose, bon, on fait tout ce qu'il faut, puis voilà. Non, c'est dans la réciprocité. Et c'est l'occasion quand même aussi de saluer le fondateur, enfin des noms qui restent de la fondation de l'association d'entraide vivre, le docteur Gustave Beauvois. C'était un médecin, un homme, voilà, qui avait remarqué que les gens qui avaient du mal à sortir de la précarité, à vivre, justement, avaient besoin d'une activité. Ils avaient besoin de manger, voilà. Et il a eu cette approche globale et dans la réciprocité de l'entraide.
Et qui passe aussi par le travail, on l'a bien compris. Merci infiniment à tous les deux. Hein. Merci Yaya Mesbah, merci à vous docteur Jean-François Avrang. On parle à alimentation et nutrition à présent dans Priorité Santé avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Alors on va parler aujourd'hui des risques pour la santé liés à ces aliments ultra transformés. De nouveaux résultats scientifiques ont été publiés récemment. Ils sont venus renforcer les preuves hein, sur les risques liés à la consommation de ces fameux aliments ultra transformés. Est-ce qu'on peut justement en savoir plus sur ces résultats, Stéphane?
Alors, ce travail qui est très très intéressant a été publié par un prestigieux journal anglais, le British Medical Journal, et il est basé sur une cohorte française, pour une fois, ce qui est assez rare, la cohorte EREN et Nutrinet, qui fait à peu près 100 000 personnes suivies pendant 10 ans. Donc c'est vraiment important, c'est pour montrer que c'est une étude vraiment d'ampleur. Et donc, durant cette longue période, les chercheurs ont regardé beaucoup de choses, mais ont regardé entre autres la consommation d'aliments ultra transformés, et se sont rendus compte que pour les personnes qui consommaient beaucoup d'aliments ultra transformés, il y avait une surincidence de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Alors, ils ont conclu même, dans la conclusion de cette étude, qu'une augmentation de 10% en valeur absolue de la part d'aliments ultra transformés dans le régime était associée à une augmentation de 12% de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est pas négligeable du tout, et on voit l'impact direct. Et c'est la même étude qui, il y a un an ou deux, avait déjà fait beaucoup de bruit, enfin la même cohorte, pour dire que ces aliments ultra transformés avaient une incidence très forte dans certains types de cancers, dans certains symptômes dépressifs aussi et des troubles fonctionnels digestifs.
Alors on va revenir à la base hein, en expliquant ce qu'est justement un aliment ultra transformé.
Alors c'est une notion qui a été travaillée et toujours d'ailleurs qui est beaucoup développée par un professeur brésilien qui s'appelle le professeur Montero et qui englobe alors maintenant une famille d'aliments qui a tendance à exploser tellement ils sont nombreux, mais ça va être tous les produits destinés aux collations, aux apéritifs, et puis ça va être tous les produits préparés industriellement, hein, qui sont créés à partir de plusieurs substances d'aliments. Aujourd'hui, on entend beaucoup cette notion de cracking dans les médias, c'est-à-dire on broie et on refait des plats à partir de broyage d'aliments, et dans lequel, ben, du coup, les aliments de base n'existent plus vraiment, et à la place, on va avoir aussi beaucoup pour venir substituer le goût et tout ça, des colorants, des additifs et beaucoup de substances chimiques. Leur composition fait, ben, du coup, qu'ils sont souvent très caloriques et qu'ils ont une composition très déséquilibrée. On leur reproche d'être riches en graisse, en sel et en sucre, et d'être pauvres en fibres et en micronutriments, vitamines et minéraux. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a toute la question des emballages aujourd'hui aussi, avec les perturbateurs endocriniens et d'autres choses qui peuvent venir s'additionner. Et pourquoi on en parle autant? C'est parce qu'il faut bien comprendre que dans beaucoup de pays, notamment nos pays au nord, mais ça gagne beaucoup au sud, ils représentent déjà pratiquement 70% de la consommation alimentaire moyenne des gens. Donc c'est un vrai enjeu avec des produits qui sont tout prêts à être consommés, qui sont souvent gras, sucrés, donc attrayants, et qui sont faits avec des produits pas chers, donc moins chers, donc qui prennent des parts de marché toujours de plus en plus importantes.
Ça ressemble pas mal à ce que les Américains appellent de la junk food quand même, ce dont vous nous parlez.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il existe une classification des aliments en fonction de leur degré de transformation?
Alors, c'est le professeur Montero a créé une classification qu'on appelle de Nova. Alors aujourd'hui, les gens en France peuvent la voir apparaître avec, par exemple, les applications comme Open Food ou d'autres, où on voit ces quatre couleurs, ces quatre qui permettent de voir s'il est un peu transformé ou très transformé. Donc le groupe 1, c'est les aliments qui sont peu transformés, hein. C'est ceux qui arrivent directement du végétal ou de l'animal. Ça va être les fruits, les légumes, les œufs qui sont consommés juste avec une simple conservation, pas de transformation. Le groupe 2, c'est les aliments qu'on appelle culinaires transformés. Alors là, c'est plutôt des aliments qui vont être faits par pressage, par broyage. C'est très classiquement un raffinage, comme par exemple les huiles. Et donc, ça va juste être un simple additif. Après, le troisième groupe, c'est les aliments simplement transformés. Donc là, on va juste prendre le produit de base et ajouter quelques épices ou quelques petites choses, mais pas changer majoritairement le produit. Bah, ça va être le vin par exemple, les fromages, ou ça va être aussi les conserves de légumes ou de fruits. Et le quatrième groupe, c'est celui qui est classé en rouge maintenant partout, dans les applications, sur le Nutri-Score ou partout, c'est les aliments ultra transformés. Là, c'est la grande famille que je précisais avant, sur lequel il y a aussi les glaces, les boissons sucrées, les céréales du petit déjeuner, ou encore les energy drinks, qui vont donc être vraiment ceux qui posent un gros problème par leur composition et leur impact.
Les boissons énergisantes. Alors, quelles sont les recommandations à suivre, à adopter pour justement limiter ou manger correctement tout en consommant ces aliments ultra transformés?
Il faut déjà réduire au maximum la consommation de ces aliments, c'est-à-dire de ceux qu'on achète, et revenir à la cuisine, j'allais dire, à la maison pour pouvoir préparer au maximum et transformer soi-même, ce qui change totalement la composition des plats, puisqu'on peut contrôler ce qu'on met en sel, ce qu'on met en sucre, ce qu'on met en huile. Ça, c'est vraiment très important. Et en plus de ça, il faut choisir après, dans le commerce, quand on va sur ces aliments-là, ceux qui ont la meilleure composition. Et justement, c'est là où on va faire appel au label ou alors aux applications qui vont nous dire ceux qui sont, j'allais dire, plus verts que ceux qui sont rouges, et d'aller choisir les moins transformés et dans les transformés ceux qui ont la meilleure composition, parce que on sait aujourd'hui qu'à deux produits transformés identiques, l'impact nutritionnel n'est pas forcément le même, et on a plein d'outils qui se mettent en place pour aller faire les meilleurs choix.
En tout cas, ça donne envie d'aller au marché.
Tout à fait, c'est la priorité avant même d'aller vers les applications.
Stéphane Besançon, merci. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et priorité santé, c'est fini. On se retrouve bien sûr demain. Bonne journée.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre